juillet, ça rentre.
Donc voilà, si vous achetez une voiture neuve
dès le 7 juillet.
Dès le 7 juillet, elles auront ces options là, quoi.
Obligatoirement. Le 6 juillet, acheter.
Merci beaucoup, Léonard Dupère. On rappelle du garage Imhof. Toutes ces informations, à part ça, je vois qu'il y a le petit logo de la Confédération. Donc ça veut dire qu'on les trouve sur le site de la Confédération.
Exactement.
Toutes ces modifications. Puis sinon, on va voir son garagiste préféré, puis on lui pose des bonnes questions.
Oui.
Merci.
Avec plaisir.
Beaucoup. Merci, Dominique Garonne.
Merci.
Bon week-end à vous. Puis à la prochaine.
Bon week-end.
À la prochaine.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne, est-ce que tu as des cheveux? Est-ce que tu as une barbe? Ou à défaut, si tu es comme moi, c'est-à-dire imberbe, ou comme moi dans le futur, c'est-à-dire chauve, est-ce que tu as un filtre sur ton smartphone qui te permet d'en avoir? Ben dans ce cas, tu as toutes tes chances de gagner 2 billets pour le concert de demain de Sidi Larsen, Jacuzzi Jaguar et Jane Barnell au Pont Rouge de Monté. Pour les gagner, c'est très simple. Tu m'envoies un WhatsApp au 079 364 3106 avec une photo de toi en train de me montrer ta barbe et tes cheveux. Tu rajoutes ton nom et prénom et les premiers et premières arrivées gagneront 2 entrées pour aller voir Sidi Larsen, Jacuzzi Jaguar et Jane Barnell. C'est de la musique de chevelu et de barbu. Prouve que tu en es et gagne grâce à Radio Chablais.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
L'artiste Vincent Genret propose une nouvelle exposition à l'espace culturel de Vouvry. C'est jusqu'au 19 mai prochain, du jeudi au dimanche de 15h à 18h. Vincent Genret, bonjour.
Bonjour Cyril.
Alors peut-être déjà nous expliquer votre démarche artistique. Vos tableaux font preuve d'une certaine originalité. On va décrire votre univers artistique. Justement, expliquez-nous votre art, si vous arrivez déjà un petit peu.
Alors déjà, j'ai commencé avec mon style personnel, avec de l'abstrait, mais ça s'est amélioré en faisant aussi le cosmos, des masques, bien sûr, remplis plein de couleurs.
Alors, vous le dites, hein, avec de l'abstrait, c'est marrant que vous dites améliorer, parce que l'abstrait a aussi une certaine valeur. Vous aviez besoin d'évoluer, c'est un peu ce que vous cherchez à nous dire?
Oui, tout à fait. Puis je recherche toujours des nouvelles astuces, des nouvelles expériences auxquelles ça change vis-à-vis des premiers tableaux que j'ai peints.
Alors, l'univers, vous avez dit le cosmos, hein, qui vous inspire, les masques également. Tout d'abord, le cosmos, pourquoi et puis comment vous le retranscrivez ensuite?
Bah, disons que en forme de couleur en galaxie, et puis j'ajoute aussi de la mousse expansive.
Ok, c'est-à-dire, expliquez-nous ça un petit peu. Ça veut dire, vous travaillez le tableau et les couleurs, puis vous rajoutez une sorte de relief?
Voilà, tout à fait. C'est ce qui donne à la matière, on va dire, en 3D.
Alors ensuite, les masques, c'est un peu le même état d'esprit?
Non, pas du tout. Sauf que les masques, là, c'est vraiment la peinture acrylique, les feux de Posca. Et c'est vraiment tout un concentré de couleurs que j'emmagasine en une seule forme.
Pourquoi la couleur a autant d'importance dans votre univers artistique?
Bah écoutez, pour moi la couleur, c'est vraiment, il y a des couleurs qui intriguent, il y a des couleurs qui attirent. Et moi, ma couleur préférée, c'est vraiment rouge, mais vraiment rouge exotique.
Et pourquoi? Parce qu'il y a de la chaleur dedans, ça retranscrit une certaine puissance.
Voilà, tout à fait.
Alors Vincent Genret, on rappelle, vous exposez du 26 avril au 19 mai prochain à l'espace culturel à Vouvry, du jeudi au dimanche de 15h à 18h. Et le vernissage, ben, c'est tout à l'heure à 18h30, aujourd'hui vendredi. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, Cyril.
À bientôt, bonne au revoir Vincent Genret.
À bientôt, bonne journée.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit. Le Mag, c'est ta région et des journalistes qui bossent d'arrache-pied pour te la rapporter du lundi au vendredi après le journal de 17h. Direction Doréna pour commencer, et plus précisément la maison des contes et légendes, où notre reporter de chic et de choc, Léa Journaud, se trouve. Salut Léa.
Salut Loïc, bonjour à tous.
Tu es sur place avec ton invité pour parler du programme de l'établissement Diablerin et notamment de la première veillée de l'année.
Absolument, je suis avec Pierre-André Perrin, le gérant de la maison des contes et légendes. Déjà, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs aussi.
Alors, avant de commencer par le programme, justement, on va rappeler un petit peu quel est l'intérêt finalement d'avoir une maison des contes et légendes ici à Doréna.
Alors l'intérêt, je pense, il est double. Le premier intérêt, c'était de trouver un lieu où les légendes auraient pu être un lieu où ça se transmet de génération en génération, où on apprend à les découvrir. Et puis l'autre intérêt, c'est que pourquoi le Bas-Valais, c'est parce que quelqu'un, les fondateurs, ont pensé qu'une maison de l'imaginaire à Doréna, ça serait quelque chose de génial. Voilà.
Et finalement, la maison de l'imaginaire est devenue la maison des contes et légendes, et c'est exactement où on se trouve, et c'est exactement où ce soir va se dérouler la première veillée de l'année, c'est bien juste?
Oui, tout à fait. Alors, ce soir, c'est Viva la Musica, ça veut dire la musique, ce qu'elle nous apporte, du bonheur, des bonnes pensées, mais aussi les instruments ont une histoire. Et quelle est cette histoire? Certaines légendes façonnent les instruments.
Donc finalement, il y aura de la musique ici, c'est ça?
Oui. En effet, alors il y aura des textes qui seront racontés et en même temps, de l'autre côté, agrémentés par de la musique.
Alors ça, ce sera ce soir justement à 19h. Ensuite, il y aura deux veillées, dont une pour lecture pour public averti. Ensuite, il y aura une soirée connue puisqu'elle part du patois. Mais c'est quoi cette lecture pour public averti finalement?
Alors, c'est les contes érotiques, bien entendu. Des contes qui, bien sûr, qui seront soft parce que dès 14 ans, bien sûr, pour public averti, ouvert à tout public, bien entendu, dès 14 ans.
L'idée d'avoir justement ces lectures érotiques, c'est venu d'où finalement? Parce que quand on pense aux contes, on pense pas forcément aux contes érotiques.
Oui, c'est vrai, c'est un peu le côté caché des contes. Mais il faudrait penser aux Mille et Une Nuits, qui parlent déjà des contes érotiques, bien sûr, dans l'Orient. Pourquoi les contes érotiques ici à Doréna? C'est aussi parce qu'une demande avait été faite. Nous avions déjà eu une expérience il y a bien longtemps, puis ça avait super bien marché. Et pourquoi pas le refaire et revivre tout cela?
Finalement, toucher aussi tout public, petits et grands, c'est ça?
Voilà. Alors, il peut, comme ce soir, c'est une programmation petits et grands, bien entendu, avec deux tambours du village qui seront aussi présents pour leurs prestations. Et puis, de l'autre côté, on a les contes érotiques. Et pour terminer, cette saison, il y aura aussi la soirée patoisan.
Et justement, cette soirée patoisan, je ne sais pas comment ça se dit. Ouais, comment est-ce que... Enfin, elle va servir à quoi, finalement? C'est quoi?
Alors d'abord pour les patoisans, c'est extraordinaire parce qu'ils sortent, je dirais, de leur maison, ils viennent, il y a différentes formes de patois en vallée, ils vont pouvoir s'exprimer, animer cette soirée. La dernière a super bien marché et celle-là, elle sera encore plus pleine que la dernière fois.
Alors c'est pas uniquement, justement, c'est du patois de tout le Valais finalement?
Ah bien entendu.
Il n'y a pas uniquement une sorte de patois spécifique?
Non, du tout.
Et c'est aussi l'occasion de montrer aussi les différentes sortes de patois aux jeunes?
Oui, en effet. Alors justement, avec, on vient de vivre cette expérience où les écoles de Collonges, Doréna et Viona ont participé à cette aventure dans la découverte du patois pour les plus petits, et elle sera revécue plus tard pour les plus grands.
Comment, où est-ce qu'on peut trouver déjà toutes les informations sur les dates, les surtout en fait finalement?
Nous avons un site qui est très très bien fait. Notre webmaster y travaille, Madame Geller fait ça très bien, et je vous invite tous à regarder notre site, à voir aussi que l'exposition des carrières est ouverte désormais jusqu'au 7 juillet, tous les dimanches de 10h à 17h.
Parce que c'est ça finalement, la maison des contes et légendes, c'est pas uniquement des soirées, il y a aussi des expositions. Elle vit toute l'année cette maison?
On essaye de la faire vivre toute l'année. L'hiver, c'est un peu difficile parce qu'elle est difficilement chauffable. On fait ce qu'on peut. Mais à partir de la bonne saison, oui, elle est ouverte.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre-André Perrin. On le rappelle, vous êtes le gérant de la maison des contes et légendes de Doréna. On vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne veillée ce soir.
Merci à vous tous.
Et si vous voulez en savoir plus sur Doréna et la Maison des Contes et Légendes, entre autres, écoutez Radio Chablais toute la semaine prochaine, du lundi au vendredi à 8h30. C'est là-bas que se trouvera le Nombril du Monde, avec Yasmine Ballet comme guide.
Radio Chablais, programme de nuit.
On va continuer ce mag en s'intéressant au monde des centres médico-sociaux en Valais. Parce que rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire, mais il faut quand même des équipes médicales derrière pour assurer les soins. Cette semaine, le groupement valaisan des CMS a en effet annoncé un changement de présidence. Et c'est la conseillère municipale de Colombey-Murat, Natercia Knubel, qui reprend les rênes de cet organisme. Alors, pour comprendre les enjeux qui attendent le groupement et pour se familiariser avec ses missions, nous avons rencontré la nouvelle présidente de la Chablaisienne, Natercia Knubel. Elle est au micro de Xavier Borgeot.
Alors, le groupement valaisan des CMS, c'est la fêtière des CMS cantonaux. Donc, on est là pour accompagner nos CMS dans l'application de leur mandat, dans la mise en œuvre de leur mission, et puis pour tout ce qui est lien avec le canton, pour ce qui est des prestations et des sujets qui sont communs aux 5 CMS régionaux, puisqu'après, chaque CMS a ses prérogatives dans le cadre de sa région.
Alors, comment est organisé concrètement le groupement ?
Alors, le groupement, il est composé aujourd'hui d'un secrétariat général avec une secrétaire et puis un assistant. Et autour de ça, les personnes qui décident de ce qui se passe dans ce groupement, c'est le comité de direction. Donc, le comité est composé des 5 directeurs des CMS régionaux et puis de la conférence des directeurs qui, elle, est composée des 5 directeurs des CMS régionaux, mais qui, eux, sont là avec une voix consultative et puis pour accompagner les présidents dans les décisions à prendre.
Alors, voilà pour le fonctionnement et l'organisation. Maintenant, il y a des missions, il y a des enjeux, il y a des objectifs. Je suppose que ces objectifs, ils évoluent aussi avec la société. Alors, quels sont peut-être les enjeux majeurs, selon vous, pour les années à venir ?
Alors aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de mettre en œuvre la politique fédérale et la politique cantonale en faveur des soins de longue durée, en tenant compte à la fois de l'évolution démographique qui, vous le savez, est très importante. Hein. On va arriver vers des années où on aura beaucoup de personnes qui auront besoin d'être accompagnées, d'être soignées. Et puis, en parallèle, on a un manque de personnel qui est flagrant, personnel formé. Donc toute la difficulté, tous les enjeux futurs, ça va être de réussir à coordonner ces deux choses pour pouvoir effectuer les missions qui sont données au CMS et maintenir les personnes à domicile le plus longtemps possible.
Alors, je suppose que vous n'avez pas la réponse, parce que sinon on pourrait régler le problème. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette difficulté de recruter de la main-d'œuvre ?
Alors, il y a eu peu de formation, les gens se détournent assez rapidement du métier aussi. Hein. On voit, maintenant ça se stabilise, mais on a vu pendant un temps, surtout après le Covid, beaucoup de personnes qui étaient dans le domaine de la santé qui ont changé de voie.
En raison de la pénibilité du travail ?
Exactement, en raison d'une surcharge, c'est pénible. Mais c'est aussi parce que il y a une volatilité dans le personnel. On va un petit moment au CMS, un petit moment à l'MS, un petit moment à l'hôpital, on va chez les OSAD privés, après on revient. Puis même si on met tous ces gens ensemble, on n'arrivera pas avec le personnel qu'on a aujourd'hui à assumer complètement la mission. Donc le grand enjeu du groupement des CMS valaisans ainsi que de la Valem, ce qui est la fêtière des CMS, c'est d'arriver à collaborer avec tous les partenaires pour mettre ensemble nos forces pour pouvoir assumer cette mission qui nous est donnée de garder nos aînés le plus longtemps chez eux.
Et est-ce qu'il faut trouver de nouveaux outils, justement, pour pouvoir lisser cette situation ?
Alors, trouver de nouveaux outils, c'est difficile. Il faut surtout que les formations qui ont été mises en place, parce qu'il y a de nouvelles formations qui ont été mises en place, puissent aboutir. Et il faut surtout attirer les gens dans ces métiers-là. Si on arrive à faire venir plus de jeunes et à les garder ensuite chez nous, la situation pourrait s'améliorer. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase de transition. Des nouvelles formations ont été créées. On attend qu'elles aboutissent, mais on sait déjà que ça ne sera pas suffisant.
Et quand on reprend une présidence, est-ce qu'on veut aussi amener un petit peu sa touche ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous allez insister ? Parce que ça vous tient à cœur.
Oui, il y a des points sur lesquels je vais insister. Moi, mon leitmotiv, c'est de dire toutes ces personnes qu'on aide aujourd'hui, donc essentiellement nos aînés, ce sont des personnes qui ont construit notre pays. On doit leur donner la prestation la plus développée, la meilleure possible, et évidemment en tenant compte des contraintes auxquelles on fait face. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'un bon lobbying auprès de nos politiques et puis une promotion de tous ces métiers de la santé qui sont si importants, c'est quelque chose à faire.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à cette présidence ?
Oh, de réussir à maintenir cet objectif, de réussir à faire en sorte déjà que la collaboration avec toutes les autres institutions qui sont autour de cette thématique fonctionne bien et qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour aller de l'avant.
Donc c'est l'échange qui prime, hein.
C'est l'échange,
le dialogue et savoir s'écouter.
Exactement.
Donc on vous souhaite en tout cas plein
Merci
succès
beaucoup.
À ce nouveau poste. On le rappelle, Natercia Knubel, vous êtes la nouvelle présidente du groupement valaisan des CMS. Excellente fin de journée, au revoir.
Merci à vous aussi, au revoir.
Bonne nuit sur Radio Chablais. On va terminer ce mag avec du Berne, comme l'abrègent les journalistes, puisque comme chaque mois, nos correspondants parlementaires nous proposent une grande interview. Ludovic Turin, rebonjour.
Rebonjour Loïc, et oui, vous avez dit ça vient de Berne. Bah, aujourd'hui, ce qui vient de Berne, c'est un entretien avec une personnalité d'envergure nationale, voire même internationale, qui pèse fortement sur le débat et certaines décisions politiques. Peu de gens le savent, mais le Parlement fédéral a son propre ambassadeur. Claudio Fischer est né au Tessin, il a étudié les sciences politiques et l'administration publique à Lausanne, puis il a travaillé pour plusieurs départements fédéraux. Claudio Fischer est le premier ambassadeur de l'histoire du Parlement. Il raconte comment ce titre a été créé. Claudio Fischer.
Je suis arrivé en 2007 et on s'est rendu compte que les activités internationales du Parlement ont continué à se développer et que les interlocuteurs externes, qui sont notamment les ambassadeurs étrangers en Suisse, il y en a plus que 100, ne savaient pas très bien où était la porte d'entrée pour avoir des contacts officiel avec le Parlement. Alors souvent, ils contactaient le secrétaire général, qui les renvoyait à moi. Mais avec le titre de chef de relations internationales et plurilinguisme, à l'extérieur, on ne connaît pas ça. Et donc, l'idée est venue de me donner ce titre de travail qui permet à l'extérieur de comprendre dans quelle position je suis. Et que je suis donc l'interlocuteur, notamment les ambassadeurs étrangers en Suisse. Et avec ce titre, je suis aussi inclus dans le cercle des ambassadeurs suisses. Donc je participe à la conférence des ambassadeurs qui a lieu chaque année. Et j'entretiens des relations très étroites avec mes collègues dans d'autres départements.
Est-ce que, à l'époque où ce titre vous a été donné, le gouvernement était ouvert à avoir un ambassadeur aussi au Parlement ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'était toute une histoire. Ça a duré plusieurs années du côté du gouvernement, et je dirais aussi du côté surtout du département des affaires étrangères à l'époque. On n'avait pas tellement envie de donner le titre à quelqu'un qui ne travaillait pas, soit au département ou au moins au niveau gouvernemental. Donc il y a eu un va-et-vient, parce qu'il est clair que le titre ne peut être délivré que par le gouvernement. Et il y avait une requête du Parlement, ça a pris quelques années, et puis en 2013, enfin, ce titre est arrivé.
Et alors aujourd'hui, quel est le rôle de l'ambassadeur du Parlement ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
Je gère un secteur avec plus de 50 personnes. Au niveau opérationnel, je travaille étroitement avec les présidents des conseils, qui ont quand même une position particulière, parce que, un peu comme le président de la Confédération ou la présidente, ils représentent aussi le Parlement vis-à-vis de l'extérieur. Là, je les accompagne, je les soutiens dans toutes sortes de choses. Et puis, je suis un peu le visage du Parlement vis-à-vis de l'extérieur, notamment vis-à-vis de mes interlocuteurs principaux, qui sont les ambassadeurs étrangers en Suisse. Donc, je suis extrêmement actif sur le parquet diplomatique. Ça veut dire que mes journées ne se terminent pas forcément à 18h, mais je fais encore des passages à différents événements organisés par les ambassades. C'est une activité extrêmement importante et qui me plaît aussi beaucoup.
Alors, la position du Parlement, elle peut diverger de celle du département fédéral des affaires étrangères sur certains sujets. Est-ce que ça risque pas de donner parfois un message un peu confus à l'étranger si la position du Parlement n'est pas forcément la même que celle du gouvernement ?
Bien sûr, mais je crois que c'est un peu le jeu politique, je dirais, à l'exécutif, à législatif. Je dirais que la politique partitique au niveau des relations internationales est moins forte. Mais ce qui me semble important, c'est que le Parlement soit associé, et c'est d'ailleurs le cas depuis l'année 2000 avec la nouvelle Constitution fédérale, soit associé de plus en plus à la politique extérieure, qui reste quand même un domaine du gouvernement, dès le départ. Parce qu'à la fin, tout ce qui se discute, tout ce qui se négocie au niveau du gouvernement finira quand même un jour ou l'autre au Parlement. Et donc, le plus tôt on est associé, le plus tôt on peut prendre position, on peut aussi critiquer, on peut essayer de trouver des chemins communs, le mieux c'est. Je crois que le dossier européen est un cas très typique, mais aussi la participation au Conseil de sécurité. Je veux dire, là, le gouvernement a compris qu'il fallait associer le Parlement au plus vite.
Et le Parlement fait de plus en plus de politique extérieure. Il a fortement intensifié ses relations internationales ces dernières années. Claudio Fischer dévoile dans quelle direction ?
Ça va un peu dans tous les sens, mais il est clair qu'on est quand même un peu sous la ligne des priorités qui sont celles aussi au niveau gouvernemental. Je veux dire, la politique européenne est bien sûr, depuis plusieurs années, un thème principal. Bien sûr, il y a des positions très différentes au sein aussi du Parlement. En même temps, tout le monde sait qu'il faut trouver une solution, peu importe en quelle direction. Et ensuite, bien sûr, c'est les grands marchés, notamment mondiaux. Et là, la présence de la Suisse dans l'Association européenne de libre-échange, avec tous ces accords qu'on fait au niveau gouvernemental, où il y a un support aussi du Parlement, sont particulièrement importants. Troisième volet, je dirais, c'est certainement la coopération. Et puis il y a des focus un peu particuliers sur les pays voisins, sur la Grande-Bretagne depuis la sortie du Brexit. On essaie de fixer un peu les priorités, mais c'est pas toujours simple. Et les pays étrangers sont intéressés, souvent intéressés de travailler avec la Suisse. Et là, parfois, il faut faire un peu une sélection aussi.
Et vous pensez que ces relations internationales du Parlement suisse vont continuer à se développer ?
Alors, en tout cas, c'est les signes qu'on a, oui, absolument. On sent aussi de la part des organes officiels du Parlement qui sont en charge de la politique extérieure. Elles nous demandent aussi à nous, à l'administration, de plus en plus. Ils veulent avoir une approche parlementaire plus développée et pas justement ne travailler que sur la base des inputs qu'ils reçoivent du côté gouvernemental. C'est un développement qu'on observe depuis plusieurs années et ça va certainement continuer comme ça. Donc le Parlement est en train de vraiment développer sa politique extérieure.
Depuis que vous êtes à ce poste, quels ont été peut-être les moments forts que vous avez vécu ou que le Parlement a vécu au niveau des relations internationales ?
Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Nous avions eu des visiteurs de très haut niveau. On a accueilli quelques reprises le Dalai Lama, par exemple, ce qui n'a pas forcément fait plaisir à l'ambassade chinoise. Avec la guerre en Ukraine, nous avons eu un moment fort. J'ai pu participer en 2022 à un voyage à Kiev. Donc, pendant la guerre, c'était la première fois qu'une délégation parlementaire, c'était la présidente du Conseil national de l'époque, Irene Kalin, faisait un voyage dans un pays en guerre. Nous avons eu l'année dernière ce discours vidéo de M. Zelensky, live au palais du Parlement que nous avons organisé. Et la prochaine étape, c'est juste avant la conférence sur la paix, on aura la visite du président du Parlement ukrainien à Berne, donc du 11 au 13 juin. C'est quand même le numéro 2 du pays, ce qui est peut-être pas très connu non plus, mais c'est une visite extrêmement importante. Nous avons été souvent en Ukraine, c'est certainement un pays avec lequel on a toujours des relations parlementaires très étroites, et depuis le début de la guerre, bien sûr, cela s'est intensifié, donc c'est un peu des moments forts, un peu des moments prioritaires actuellement. Au-delà, bien sûr, encore une fois, des pays voisins restent toujours une priorité, et maintenant, je dirais, tous les pays européens en général, dans le cadre de ces négociations.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Pas des rétros, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Si tu es fan d'histoire, tu vas adorer le « Attends, je t'explique » d'aujourd'hui. Si tu aimes bien ta région, remarque aussi, pas besoin d'être méga fan, la question d'aujourd'hui, c'est les armoiries. C'est quoi ? C'est vrai, on en voit plein partout. Bon, pour répondre à cette question, j'ai une personne toute trouvée. Joël Demotz, bonsoir.
Bonsoir Loïc, bonsoir le Chablais, bonsoir tout le monde.
Tu es médiateur culturel au Château de Chillon.
Absolument, donc moi je m'occupe de transmettre l'histoire finalement au public. Donc on m'a demandé de venir expliquer qu'est-ce que c'est les armoiries, on peut parler de ça. Forcément, je suis sauté sur l'occasion.
Ouais, en plus c'est une proposition qui vient du Château de Chillon. Donc moi personnellement je l'ai accepté et je remercie le Château de Chillon d'avoir fait une proposition comme ça. Rentrons dans le vif du sujet, puis t'étais parti, je t'ai coupé la parole, excuse-moi, les armoiries, c'est quoi ?
En fait, les armoiries, c'est tout simplement ce qu'on pourrait dire des dessins, mais pas n'importe quel dessin, c'est des dessins qui représentent des personnes, des villes, ou à peu près n'importe quoi. En fait, pour les armoiries, pour les comprendre, il faut remonter loin dans le Moyen-Âge, il faut remonter à peu près, plus précisément, allez, on va entrer au 11e siècle. Imaginez déjà les premiers chevaliers, les cottes de mailles, etc. qui commencent à se battre les uns les autres. Est-ce que Loïc, est-ce que tu as déjà vu un chevalier en armure ?
J'ai déjà vu un chevalier en armure, oui.
Est-ce que tu arrives à voir sa tête ?
Non.
Eh bien, le problème, c'est qu'il faut commencer gentiment à se repérer sur les champs de bataille. En fait, il faut imaginer à Hastings, en 1066, on a Guillaume le Conquérant qui tente de prendre Normandie. Simplement, un jour, pendant la bataille, il tombe de cheval. Catastrophe, tout le monde croit qu'il est mort. Et personne voyait, il n'avait pas encore de blason. Il n'avait pas d'armoirie. Donc, pour se reconnaître, il a dû enlever son casque, que ses soldats le voient. Et du coup, c'est quand même assez dangereux. Donc, au 12e siècle, un petit peu une centaine d'années après cette bataille, sont apparues les armoiries, finalement les symboles des premiers chevaliers, des premiers seigneurs qui utilisaient ce symbole pour mettre sur leur bouclier, sur leur casque, mais aussi sur leur nuque. Pourquoi sur leur nuque ? Comme ça, le gars qui est derrière vous, il va pas vous planter par derrière en pensant que vous étiez un ennemi. Ce serait quand même assez fâcheux, on va le reconnaître.
Donc en fait, c'est pour éviter, comme on dit aujourd'hui, le tir allié, quoi. C'est pour pas se faire taper, pour pas se faire massacrer par le copain d'à côté.
Alors, c'est une des premières choses pour lesquelles elles ont été créées, oui, tout à fait. Après, au fur et à mesure, les cottes de mât et donc les armures de l'époque laissent place à des armures de plate. Et avec une armure de plate, on n'a pas besoin de bouclier pour se battre. Par contre, on a remarqué que les armoiries, c'est vachement chouette quand même. On aime bien les mettre et on peut utiliser ces symboles pour vraiment dire qui on est, qu'est-ce qu'on est. Du coup, va apparaître les héros d'armes, des spécialistes, des aides de camp de ces chevaliers qui vont être capables de lire l'héraldique. Ça vient d'héros d'armes, justement. Et donc, c'est la science de l'héraldique, la science de reconnaître les personnes pour éviter les impairs. Et du coup, tous les nobles, mais aussi, petit à petit, les villes et même les corporations d'artisans. Par exemple, vous avez une guilde de bouchers, par exemple, vous allez avoir votre armoirie avec un affronté de bœuf, donc une tête de bœuf, et un hachoir. Et ça va être ça pour les villes, pour les universités, bref. Et petit à petit, ça va être aussi le cas des femmes, même si au début c'était plutôt réservé aux hommes, mais à partir du 14e siècle, on a aussi des armoiries féminines qui existent. Pas de discrimination dans les armoiries.
Ok, d'accord, mais c'est impressionnant. En fait, l'héraldique, tu disais tout à l'heure, moi, il y a un épisode de Game of Thrones qui me vient à l'esprit où justement, ils ont l'habitude de dire ils ont l'habitude de décrire le dessin avec des mots très précis, parce que c'est des mots très précis, et puis là on va se retrouver avec finalement le nom de famille ou le clan à qui appartient cette armoirie.
Oui, l'héraldique c'est justement la façon de le dire, parce que finalement dire c'est à peu près c'est un drapeau, s'il y a du vert, il y a du rouge, en fait on va vraiment utiliser des mots très techniques. Couper, ça veut dire que c'est séparé en haut en bas, partie c'est à gauche à droite, vous allez avoir toutes les couleurs des noms précis, par exemple le bleu devient l'azur, le vert ça devient le sinople, et le pourpre c'est la classe. C'est le violet. Et certaines armoiries, il y a les métaux, donc l'or et l'argent, et il y a tous les émaux, donc différentes couleurs. Donc il y a vraiment des mots très très spécifiques. Et si votre lion, il a les pattes l'une après l'autre, ou alors rassemblées comme s'il allait sauter, vous n'allez pas décrire votre lion de la même manière. Alors attention, c'est une science très très précise, et ça, je pense qu'il faut... Une ou deux bonnes heures, donc on va pas faire que de l'héraldique, sinon on en parle demain matin.
Écoute, je te propose qu'on fasse déjà une petite pause musicale. Surtout que j'ai essayé de chercher la chanson la plus médiévale que je connaisse et que je puisse diffuser sur Radio Chablais. C'est Jean-Jacques Goldman qui avait sorti un album de musique celtique et médiévale à l'époque. Tourne les violons.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
C'est tout de suite beaucoup plus clair.
Les armoiries, c'est le symbole d'une personne noble, d'une ville, d'un royaume, mais aussi de corporations comme celle des bouchers ou encore les universités. Les dames auront des armoiries un petit peu plus tardivement que les hommes, mais elles en auront quand même. Et à la base, ces armoiries servaient à ne pas se faire massacrer par ses propres copains sur un champ de bataille, mais finalement, ça sert à s'identifier, à se mettre en avant pour se faire connaître et se faire reconnaître. D'ailleurs, l'héraldique, c'est ce qui sert, c'est la science de la lecture exacte des armoiries. Joël Demotte, ce médiateur culturel au château de Chillon, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des armoiries locales ?
Alors, on va absolument parler des armoiries locales. Et puis, comme on est à Radio Chablais, on va tout simplement parler des armoiries du Chablais. Car oui, le Chablais a eu des armoiries, mais elles sont un petit peu oubliées. Alors, je vais d'abord vous le dire en termes, on va dire, héraldiques, vraiment dans la science des armoiries. Et après, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire finalement. Donc, les armoiries du Chablais, c'est d'argent billetté de sable à lion de sable rampant. Alors comme ça, ça fait très noble. Et en fait, si on pense qu'est-ce que c'est effectivement assez la classe. C'est un lion noir sur un fond blanc, mais il est billetté. Donc ça veut dire qu'il y a des petits rectangles noirs sur ce fond, ce qui en fait une armoirie qui est quand même assez...
Elle est classe.
Elle est assez classe.
Moi, je la trouve magnifique, cette armoirie. Je la trouve hyper belle. Et il y a un truc, c'est que c'est un lion et non pas un griffon. Il y a beaucoup de gens qui pensent, dans la culture populaire ou urbaine, qui pensent que c'est un griffon, mais c'est un lion de sable.
Exactement, c'est un lion de sable. En fait, les lions et les aigles sont parmi les animaux les plus représentés, en fait. Parce qu'une armoirie, attention, il ne faut pas être... Vous croyez que c'était que le bouclier ? Et non, ce n'est pas si simple. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc il y a votre bouclier avec votre dessin et il y a après les tenants, les soutiens. Donc il y en a tout plein et attention, Ici, rien n'est fait au hasard. On va prendre une armoirie qui est assez sympa au château de Chillon. Oui. Alors attention, c'est une armoirie bernoise. Hein, c'est l'armoirie. Oh, ouais, oui, je sais. C'est l'armoirie du canton de Berne avec l'ours, etc. Et de côté, il y a deux ours. Mais si vous regardez cette armoirie, en fait, sur le dessus, il y a une couronne et comme cimier dans cette couronne, il y a un aigle bicéphale. Donc un aigle à deux têtes.
Qui était le symbole des Habsbourg pourtant.
Exactement, en fait. C'était l'aigle impérial. En fait, c'était la façon pour la ville de Berne de dire « Nous avons le soutien, la protection directe de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. » Donc c'était vraiment une façon de dire « Nous sommes extrêmement nobles. »
Alors que pourtant, ils s'étaient battus contre à la base.
Ils étaient battus contre, mais là, ouais, c'est beaucoup plus tard. Donc finalement, les alliances, ça change. Une autre chose dans les soutiens que j'aime bien, on va remonter assez au nord, en fait on va remonter sur les îles britanniques. Alors les armoiries de l'Écosse, on va pas en parler, c'est d'or avec un lion de gueule, donc c'est un lion rouge sur un fond jaune, c'est très très sympa, mais ce qui est très rigolo c'est les soutiens. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont comme soutien à l'Écosse?
Absolument pas.
C'est l'animal national de l'Écosse.
Je saurais pas dire.
C'est la licorne. Donc ils ont deux licornes qui tiennent les armoiries. Et si on regarde les armoiries générales de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, il y a un lion d'un côté représentant l'Angleterre et de l'autre côté la licorne de l'Écosse. Juste. Donc ça veut dire que en fait les soutiens n'importe tout a vraiment un petit symbole. En fait, rien n'est vraiment fait au hasard.
Absolument pas, c'est même l'inverse, tout est extrêmement précis.
Et on peut apprendre beaucoup de choses. Par exemple, en Suisse, on va retourner un petit peu en Suisse, il y a une série de communes qui forment un petit chemin et sur chacune des armoiries de ces communes, il y a une coquille Saint-Jacques. Est-ce que tu as une idée pourquoi ?
Le chemin de Saint-Jacques.
Exactement, ce sont toutes des communes qui sont sur le chemin de Saint-Jacques. Donc on va dire, on va pouvoir étudier à travers juste des symboles qu'on trouve aussi dans les armoiriers, donc ces livres avec plein d'armoiries dedans, on va pouvoir comprendre des phénomènes beaucoup plus globaux. Et en fait, les armoiries, en fait, sont vraiment, on trouve des choses extrêmement variées. On trouve des coquilles Saint-Jacques, on trouve des animaux, en fait, on trouve à peu près n'importe
quoi. Des croissants de lune dans la région.
Il y en a beaucoup, ça peut être aussi symbole de quelqu'un qui a été largement dans l'Est. On trouve, par exemple, comme sur les armoiries de la ville de Monthey, j'ai quand même été les regarder.
Ah oui, s'il te plaît.
Alors, l'armoirie de Monthey, c'est d'or, donc jaune, au chêne de sinople, donc un chêne vert, sur un mont à trois couteaux. Donc en fait, à trois courteaux, pardon, c'est une sorte de petite montagne avec trois côtés. Donc c'est une armoirie quand même qui est assez jolie. Donc c'est assez sympathique. Donc on trouve vraiment à peu près n'importe quoi sur ces différentes armoiries. C'est assez fabuleux.
Ouais, d'ailleurs, moi je suis surpris qu'avec une armoirie pareille, et je suis montaisan, donc attention que personne prenne mal ce que je vais dire, mais moi je trouve que les montaisans, on devrait les appeler les glands.
Ça pourrait marcher.
Qu'est-ce qui habite dans les chênes ? Je suis désolé, on mériterait ce surnom en plus quelque part avec notre carnaval.
Et en plus, c'est même pas des glands d'or, quoi. C'est aussi des glands de sinople. Ils sont bas. Il y en a certains qui sont, on les met en valeur, mais là même pas. J'étais un peu déçu. Et
certains
même.
Potes, c'est des glandus. Mais sinon, on va revenir un petit peu plus précisément aux armoiries. Qu'est-ce qu'on va avoir comme est-ce qu'on va avoir une armoirie très particulière ici dans la région qui va détonner par rapport aux autres ?
Alors, dans la région, il y a une armoirie qu'on retrouve beaucoup, enfin un symbole qu'on retrouve beaucoup, qui se retrouve à la fois sur les armoiries d'Aigle, l'aigle justement, et sur les armoiries aussi de Villeneuve. C'est aussi un aigle, pas de la même couleur. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup ces armoiries d'aigle ? En fait, c'est la faute aux Savoies. Donc les Savoies qui ont justement fondé le château de Chillon. Le père de Pierre II, qui était un des comtes les plus importants, on l'appelait Thomas Ier le Gibelin. Ça vous dit sûrement pas grand-chose, mais c'est pas grave. En fait, c'est qu'il était quelqu'un qui aimait beaucoup l'empereur de Germanie, du Saint-Empire romain germanique, et qui avait comme symbole
l'aigle bicéphale.
Exactement, l'aigle tout court. L'aigle tout court, pas l'aigle impérial. Et du coup, c'est justement Thomas qui a donné sa franchise, enfin qui a refondé, si on veut, la ville de Villeneuve. Et du coup, on peut voir, effectivement, il y a l'aigle, et beaucoup dans le Chablais, on voit de ces aigles potentiellement, du coup, liés à cette présence des Savoies. Et justement, les armoiries du Chablais, dont on parlait avant, en fait, Pierre II, justement, le fils de Thomas Ier, avait comme symbole un lion. Donc finalement, sous Pierre II, justement, que le Chablais est entré dans la famille de Savoie. Coïncidence ? peut-être, ou peut-être pas tant que ça,
non,
finalement.
Peut-être pas tant que ça, non, effectivement, à l'époque, ça se discutait à grands coups d'épée, faut pas déconner. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit détail, un dernier petit détail croustillant, parce que malheureusement, on arrive à la fin de l'interview.
Ah, ça va vite.
Ça va très vite. Est-ce que tu aurais un petit dernier détail à partager avec nous, un petit fun fact?
J'ai plutôt une petite énigme pour toi. Je vais te décrire une armoirie et tu vas devoir découvrir laquelle c'est. Et peut-être que quelqu'un dans les voitures pourra deviner aussi qu'est-ce que c'est. Attention, t'es prêt?
Oui.
C'est une armoirie partie d'argent et de gueule, ornée de 13 étoiles l'une dans l'autre.
Le drapeau du Valais.
Exactement, c'est le drapeau
parti, parce du Valais. Que c'est à la verticale.
Exactement. D'argent, c'est le blanc. De gueule, c'est le rouge, avec les 13 étoiles l'une dans l'autre pour dire que finalement, le rouge est dans le blanc et le blanc est dans le rouge et celle du milieu, ben, elle sait moitié-moitié.
Oh, mais c'est magnifique. Maintenant, non, c'est vachement plus. Est-ce que tu peux nous faire celle du Pays de Vaud?
Le Pays de Vaud, c'est assez nul. En vrai, les armoiries, Pays de Vaud,
on est obligé.
En fait, c'est d'argent coupé de sinople. Donc, la devise, ça, les devises sur les armoiries, c'est quelque chose qui vient de la Révolution française. Donc, à un moment, la science de l'héraldique était un petit peu en baisse. Donc, tout simplement, on pourrait dire, c'est d'argent coupé de sinople. C'est un peu simple, mais ça marche.
Mais il y a quand même un super Liberté et Patrie écrit dessus. Merci infiniment, Joël Demotte. Je rappelle que tu es médiateur culturel, tu travailles au Château de Chillon. C'était sur une proposition du Château de Chillon que nous avons parlé d'armoirie. Ça a franchement valu la peine. Merci infiniment. Je te souhaite une excellente soirée et puis potentiellement à bientôt, non?
Alors merci beaucoup, ce serait un plaisir et puis bonne soirée à tous.
Radio Chablais, programme de nuit.
Sur le grill.
La situation en Haïti, on le sait, est dramatique. On présentera justement un point de vue haïtien d'ici quelques instants. Des Chablaisiens ont décidé d'aider quelqu'un de leur famille, justement, qui se trouve en Haïti. Ils ont eux-mêmes, nos Chablaisiennes et Chablaisiens, besoin d'aide. Papillon Coaste, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez contacté il y a quelques jours de cela parce que vous faites actuellement ce qu'on appelle un crowdfunding pour aider quelqu'un de votre famille qui se trouve là-bas. Expliquez-nous le contexte.
Ce crowdfunding, c'est pour aider ma nièce et sa famille qui sont en Haïti. Ma sœur et moi, on est nés en Haïti et on a grandi en Suisse. On a été adoptés, donc on a eu cette chance de pouvoir grandir dans cette magnifique région du Chablais. Et maintenant, la situation depuis plusieurs temps en Haïti est très compliquée. Et notre nièce et sa famille ont perdu leur maison, ça fait déjà plusieurs mois, c'était en décembre dernier, à cause des gangsters, c'est eux qui font la loi dans la capitale, et il se trouve qu'ils prennent les maisons et se servent à volonté, car il n'y a pas de gouvernement et de police en place. Et maintenant, on a fait un crowdfunding, donc on voudrait lever 10 000 francs pour pouvoir reconstruire une maison pour ma nièce. Donc ce serait une maison qui ne serait pas la capitale, mais plus dans le sud, car la situation est un petit peu plus apaisée et tranquille dans le sud de l'île.
Ouais, justement, vous nous rassurez, Papillon, en nous expliquant le but, c'est d'aider votre nièce et toute sa famille à pouvoir se reconstruire une maison, reconstruire une vie, mais pour l'instant, loin de Port-au-Prince, où la situation est chaotique.
Exactement, c'est ça. Là, ils sont chez des amis déjà dans le sud, mais ils ne peuvent pas rester indéfiniment. Donc on a décidé avec eux et notre famille en Suisse de faire un crowdfunding pour les aider.
Alors justement, comment on peut vous aider, Papillon Coaste, comment on trouve les références pour ce crowdfunding?
Alors c'est tout simple. Pour ça, il faut se rendre sur la plateforme We Make It, sur le site internet. Et dans la barre de recherche à droite, il faut marquer une maison en Haïti. Ça, c'est le nom de notre projet. Donc une fois que vous avez simplement tapez ce texte, une maison en Haïti, vous tombez sur notre projet et vous pouvez le soutenir. Donc on a différentes actions pour le soutenir, tous les dons sont les bienvenus et vous pouvez verser la somme que vous voulez. Et en contrepartie, bien sûr, on va vous tenir au courant du projet et vous informer par photo. Donc on aura notre famille, ma nièce en Haïti, qui vous tiendront au courant en prenant des photos, l'état d'avancement de la maison et du projet en général.
Donc on le rappelle, une maison en Haïti sur wemakeit.com, très facile à trouver, en plus tout est expliqué correctement. Papillon Coaste, merci beaucoup, on va retrouver un contact d'ici quelques instants que vous nous avez donné pour nous expliquer un peu plus en détail la situation en Haïti. Merci en tout cas et bravo, plein soutien à vous, il reste quelques jours pour soutenir ce projet, on se dépêche d'aller sur wemakeit.com, une maison en Haïti. Merci Papillon.
Merci à vous. Bonne journée.
Sur le grill.
Et pour bonne nuit sur Radio Chablais.
Sur le grill.
Des Chablaisiens qui veulent soutenir leur nièce qui vit toujours en Haïti, c'est le sujet qu'on traite ce matin, l'occasion de parler de tout ce qui se passe malheureusement dans ce pays ravagé qu'est Haïti. Une maison en Haïti sur wemakeit.com, il vous reste encore quelques heures, quelques jours pour soutenir cette action. On a besoin de vous pour construire cette nouvelle maison pour cette famille dont une partie de la famille habite ici dans le Chablais. On parle justement d'Haïti avec Frisnel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous-même, vous êtes ici à Bruxelles, là on vous appelle. On vous appelle parce que vous êtes bien au courant de la situation puisque vous êtes entre Haïti et l'Europe régulièrement. Expliquez-nous la situation actuellement à Haïti, Port-au-Prince et autres.
Effectivement, je m'appelle Frisnel Zarak et je vis à Bruxelles depuis presque 10 ans. Et depuis, j'ai fait l'aller-retour entre Haïti et Bruxelles. Je suis de près la situation. Récemment, on a fait une distribution de matériel scolaire aux gens qui sont déplacés grâce à l'aide de papillons et tout, de nos amis suisses. Et effectivement, la situation des Haïtiens, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils ont fui la violence des gangs. Donc il y a beaucoup de déplacés. Les médias parlent de 100 000 déplacés. Les gens ont abandonné leur domicile. Ils n'arrivent pas à rentrer chez eux. Donc ce sont des femmes, ce sont des enfants qui sont en situation de viol. Donc vous pouvez imaginer des enfants, des femmes dans un pays où il n'y a pas d'électricité, dans un pays où il fait noir, dans un pays où il n'y a pas d'armée, dans un pays où il n'y a pas de policiers.
Ouais, donc, une situation vraiment dramatique, hein, on l'a dit. Oui. Et, le gouvernement qui n'existe plus, le concept de sécurité, que ce soit l'armée ou la police, vous l'avez dit, qui n'existe plus non plus. On a envie de soutenir ce projet dont on parlait avec Papillon tout à l'heure. Il faut rappeler aussi que justement, tout ce qu'on parle là, c'est principalement dans la capitale Port-au-Prince. Mais pour nous rassurer, si on soutient ce projet de la nièce de Papillon, c'est parce qu'elle va se déplacer dans une autre région où là, c'est encore à peu près viable, rassurez-nous quand même.
Mais c'est à peu près viable. La situation, c'est à Port-au-Prince. Donc les gens qui sont déplacés, ce sont des gens qui sont traumatisés. Donc qui ont besoin. En fait, quand les gens sont traumatisés, ils ont quand même besoin d'être en sécurité. Être en sécurité, c'est avoir un hébergement. Donc les gens ne peuvent pas continuer à être dans la rue comme ça. Il faut qu'ils soient en sécurité. Il faut qu'il y ait aussi, on va dire, des activités, des liens, des activités socioculturelles, comme par exemple des activités sportives. Oui, bien sûr, les gens ils vont à Corail. Corail, c'est vraiment là où Papillon est né. C'est là où je suis né aussi. Donc voilà, je pense que c'est un endroit plutôt sécure, quoi.
Alors on refera un point bientôt avec vous pour un petit peu voir. On espère d'ailleurs vraiment que la situation évolue un jour positivement en Haïti. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites pour votre pays, on le rappelle, Haïti. Et bravo à toute l'équipe de Papillon, à la famille aussi. On rappelle le WeMakeIt, donc WeMakeIt.com, une maison en Haïti, des Chablaisiens qui décident d'aider leur famille là-bas pour essayer, tant que faire se peut, de refaire leur vie. Merci d'avoir été avec nous.
Et merci, bravo aussi à Papillon et à Marie-Jo, pour tout ça, en fait.
À bientôt, bon courage.
À bientôt, au revoir.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. On est descendu qu'un tout petit peu. On se trouve dans un endroit de recueillement, c'est pour ça que je parle doucement. Le nombril du monde, c'est toujours Colombé. Emmanuel, mon très cher guide, où est-ce qu'on se trouve ?
Alors, on se trouve dans la crypte du monastère de Colombé. Alors, quand, étant gamin, j'avais été à l'école ici, et puis on était très curieux, puis on est toujours guigné, parce qu'on disait qu'il y avait un gisant dans la crypte. Et puis, jamais t'étais non plus loin au niveau historique et tout. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Sœur Gilberte qui va pouvoir nous renseigner. Alors, je passe la parole à Sœur Gilberte.
Sœur Gilberte, bonjour, merci de nous accueillir ici.
Bonjour. Et alors, nous, on se trouve dans la crypte du monastère de Colombey.
Et c'est un beau lieu, un lieu frais que nous aimons fréquenter l'été.
Sans blague, c'est vrai qu'il est très frais.
Il est très frais. Et dans ce lieu, donc les sœurs, ils sont au monastère de Colombey depuis 1647, et ce fut le premier lieu de sépulture des sœurs, ici. Et puis, les sépultures ont été transférées au cimetière du monastère, il y a même plus d'une cinquantaine d'années. Et maintenant, c'est une petite chapelle qui est sous la grande chapelle du monastère. Et qu'est-ce qu'il faut vous dire? Nous avons les ossements de notre réformatrice Louise de Ballon, dont faisait allusion Emmanuel tout à l'heure, voilà. Donc, mais ce n'est pas le corps, il y a seulement quelques os, et le corps a été reconstitué avec les membres en cire et l'habit religieux.
D'accord, donc c'est ça en fait, c'est ce que vous veniez voir ici en étant gamin, ce qui suscitait votre curiosité.
Voilà, on reste à l'extérieur, puis on est dans Guignessa pendant la création. Mais toujours avec la curiosité, bon, on ne savait pas ce que c'était, quoi.
Naturellement, la curiosité d'un enfant, et en même temps, on revient à la pierre, parce que monsieur Gaulet, ici présent, est un amoureux du caillou d'ici, de Colombey. Et là, on a construit en fait ce monastère sur un rocher.
Oui, le monastère est vraiment construit sur la pierre. Il y a très peu de fondements, à part une cave, mais c'est vraiment construit sur le rocher.
Et là, il est apparent. Donc, on a une toute petite voûte qui monte à quoi? 2 mètres, 2 mètres 50, même pas?
Oui, 2 mètres, oui, oui.
Et puis, on a l'hôtel en face de nous, et à gauche de l'hôtel, là, on voit vraiment le rocher sur lequel est bâti.
Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais juste préciser que cette chapelle a été réaménagée et consacrée à Notre-Dame de la Paix. Donc, une Notre-Dame qu'il faut prier ses temps, lorsque le monde est si bouleversé. Alors, je voulais juste dire que nous avons cette intention, pourtant, dans une intention de la paix dans le monde.
Eh ben, c'est pas la plus mauvaise des intentions, bien au contraire, effectivement, sœur Gilberte. Je veux m'approcher de l'hôtel.
Bien sûr.
Et l'hôtel qui est fait en marbre de Colombey, c'est-à-dire en calcaire.
De Colombey. Oui, comme les grands escaliers qui montent à la chapelle.
Voilà, ben, on y revient toujours.
Et bien sûr, cette rencontre, vous la retrouvez en podcast sur radiochablais.ch.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais.
Ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es dirigé vers la salle de bain et d'un geste machinal, tu prends ta brosse à dents, sans même y penser, tu ouvres le tube dentifrice et tu mets du dentifrice sur ta brosse à dents. Mais avant de commencer à te laver les dents, tu allumes le robinet ou pas? Est-ce que tu humidifies ta brosse ou pas? En fait, ça dépend des personnes. Certains la mouillent avant de mettre le dentifrice. Quant à d'autres, en fait, ils mettent d'abord le dentifrice, puis après, ils la mouillent. Mais la question fait débat, semblerait-il. Est-ce qu'il faut ou pas mouiller sa brosse à dents? Alors, selon mon dentiste, il ne faut pas mouiller sa brosse à dents avant de se laver les dents, parce que ça assouplit trop les poils et que le brossage ne sera plus aussi efficace que s'il était bien sec. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'études, semblerait-il, qui corroborent cette explication. T'as d'autres spécialistes qui vont te conseiller de mouiller la brosse à dents avant de mettre le dentifrice, pour avoir une bonne hygiène dentaire et pour avoir une bonne haleine. Alors franchement, j'ai envie de vous dire qu'on s'entend un peu, mais en gros, on ne sait pas vraiment ce qui... Voilà, il faut mouiller, il ne faut pas mouiller. Donc du coup, faites-le selon votre envie, tout simplement. Et j'ai aussi entendu dire qu'il est préférable alors de pas mouiller sa brosse à dents avant de mettre le dentifrice pour pratiquer un brossage plus efficace. Voilà quoi, c'est pourquoi pas. Mais que la salive en fait, elle est suffisante pour humidifier la brosse à dents. Voilà. Je sais pas. Franchement, on n'a pas de réponse. C'est des grandes questions qui nous traversent. Mais certains dentistes disent une chose, d'autres disent autre chose. Donc en fait, faites comme vous avez envie. Le but, c'est quand même de se laver les dents si vous avez mangé. Par contre, une fois le brossage terminé, il faut bien rincer la brosse à dents, ça c'est sûr, pour éviter qu'elle soit toute sale. Et puis il faut la garder, semblerait-il, tête en l'air pour qu'elle sèche correctement sans qu'elle développe des bactéries. Il faut éviter de la coller contre les autres. Voilà, maintenant vous saviez peut-être tout sur la brosse à dents sans vraiment savoir, vu qu'on n'a pas vraiment de réponse. En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que cette question, elle divise, mais en même temps, c'est pas très important. Par contre, après le brossage des dents, là, il y a une chose qui est certaine, il faudrait pas se rincer la bouche parce qu'il semblerait que comme dans le dentifrice il y a du fluor, il faudrait le garder quelque temps dans la bouche pour renforcer l'émail. Alors que si on se rince tout de suite la bouche, ça stoppe en fait l'effet de ce fluor. C'est la seule chose que je peux vous garantir. Quant à la question initiale, pas de réponse, faites comme bon vous semble.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais. Programme de nuit.
Les bons plans.
Où ? Sur Radio Chablais.
Ah, voilà.
On parle du Tour du Chablais avec Yvan Vuillameau. Salut Yvan.
Salut.
Alors aujourd'hui, ça va piquer un peu plus. On est à Morgin et ça risque de grimper quelque peu.
Ça va piquer un tout petit peu plus. En effet, donc la semaine dernière, on était à B. Et cette fois, à Morgin, il y aura 1 km de moins à parcourir, 7,5 km. Avec, par contre, 50 mètres de dénivelé ou plus, donc à peu près 250 mètres de dénivelé. Toujours un départ à 19h. Pour les adultes, ce sera un deuxième entraînement vallonné, on va dire, avec des parcours assez connus sur Morgin, avec le traditionnel tour du petit lac au pas de Morgin, et puis après on redescendra à travers les maisons pour finir au centre sportif.
Monsieur est un connaisseur.
Je l'ai couru quelques fois, en effet, pas toujours sur le beau temps, mais voilà, on touche du bois pour toutes les étapes.
On est bien d'accord, et là c'est le BBC 3 Torrents qui nous a concocté ce parcours.
C'est ça, c'est une nouvelle société qui se lance dans l'organisation. On a fait 3 ski clubs, c'était le moment de changer. Donc on est passé au basket, sportif en salle, mais je pense qu'ils seront tout à fait aptes à nous organiser une très belle étape.
Et si ça se trouve, ils vont peut-être même courir avec vous ?
J'ai déjà reçu des demandes du club pour inscrire des écoliers. Donc, il y en aura bien quelques-uns qui vont courir du BBC, en effet.
Ouais, et là, comme d'hab, il y a les mini, il y a les écoliers, il y a les adultes.
C'est ça. Pour les écoliers, ce sera 3,5 km avec 60 mètres de dénivelé. Et les mini, eux, ce sera 1 km. Il y a quand même un petit peu de montée parce que Morgin, c'est pas tout plat. Donc, il y a juste 20 mètres de dénivelé. Donc, ça va aller.
Ça va aller. Bah, merci. La semaine prochaine, on retourne en plaine. C'est à Aigle que nous allons pouvoir tester le Tour du Chablais.
C'est ça. À la semaine prochaine.
Les bons plans.
Où ? Sur Radio Chablais.
Ah, voilà.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
En large.
Plan. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Vincent Bailly.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'AVO Patrimoine Mondial, cette association qui protège comme un trésor ce site de l'AVO et son inscription au patrimoine de l'UNESCO. Alors, d'habitude, je commence les entretiens par pourquoi on est là. On est au cœur de l'AVO, c'est normal, on est dans les bâtiments de l'association. Il faut dire, on n'a pas de bol, c'est le jour... cette émission est enregistrée le pire jour de ce début de printemps. Il fait moche, il fait froid, il pleut, c'est pas terrible.
Oui, c'est vrai. Donc vous êtes dans la maison de la Fondation Butin de l'OS, qui est donc une maison du XVIe siècle, qui est elle aussi inscrite à l'inventaire fédéral des bâtiments d'importance. Et on a la chance d'être locataire de cet espace. Et c'est une grande chance parce que la maison est absolument incroyable. On est au cœur du patrimoine, dans un site patrimonial. Donc il y a une vraie cohérence à y être. Quant à la météo, des fois, on parle tout le temps des trois soleils de l'AVO. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Oui, ça fait partie.
On va en parler de ces trois soleils.
Mais voilà.
Vous, un peu d'abord, Vincent Bailly, vous avez pris la tête de cette association il y a 3 ans. Et avant ça, plein d'expériences, notamment dans le tourisme. Et j'ai vu à Chablais Aglo.
Alors, pas directement à Chablais Aglo, mais c'est un partenaire avec lequel on a travaillé. Alors, j'ai fait mon travail de master en géographie à l'Université de Lausanne sur l'agglomération Montaigle, effectivement, qui était un sujet qui m'intéressait particulièrement parce que c'est un territoire qui n'est pas de facto compréhensible comme une agglomération en tant que telle. Et le sujet a été très intéressant. Donc, j'ai fait à l'université la géographie, le journalisme et des statistiques appliquées aux sciences humaines.
Bon, vous avez bien connu, vous avez dû aller dans le Chablais, du coup.
Oui, alors pour l'occasion, je l'ai parcouru de long en large et en travers pour effectivement bien connaître un petit peu son articulation.
Quand on vit et qu'on défend un site vitivini comme l'AVO, on va regarder un peu ce que font les copains dans les autres domaines du canton et même au-delà.
On va toujours regarder autre part, et dans toute la diversité des vignobles, que ce soit des sites extrêmement protégés comme d'autres vignobles inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
C'est le cas de la Bourgogne, par exemple.
C'est le cas de la Bourgogne. On a également été à Bordeaux, il y a la juridiction de Saint-Émilion qui est également inscrite. On est en contact aussi avec le Haut-Douro, on est en contact avec d'autres vignobles internationaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout aux autres vignobles vaudois et suisses qui sont des partenaires. J'ai toujours le plaisir de rappeler que le patrimoine vitivinicole, il n'est pas uniquement lié à une inscription au patrimoine mondial, il est dans l'ADN en Suisse. Et c'est quelque chose qu'on doit mieux faire connaître encore.
Bon, ce vignoble, hein, incroyable. Alors, on va pas faire un cours d'histoire, mais quand même un clin d'œil. C'est les moines. Hein, c'est les moines. Alors, il y a une phrase de. On va d'abord commencer par ça. Il y a une phrase de Chapa. Hein, non, pas de Chapa. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a une phrase qui dit que c'est Dieu qui a fait le
veau.
C'est Ramu, voilà. Ouais. Louis Ferdinand Ramu qui a fait cette phrase merveilleuse. Vous allez me la citer parce que vous la savez certainement par cœur.
Bah, Dieu a fait la pente. Voilà. Et nous, on a fait qu'elle serve, on a fait qu'elle tienne, on a fait qu'elle dure. Et effectivement, c'est une phrase qu'on utilise encore beaucoup parce qu'il est rare de pouvoir résumer aussi facilement ce que représente le vignoble de Lavaux. C'est un paysage naturel avant tout, le fruit du travail du glacier du Rhône qu'on
appelait Dieu à l'époque.
C'est la version glaciale de Dieu, effectivement. Et ensuite, toute la partie culturelle et vivante qui a émergé par le travail des hommes et effectivement des moines au tout début, puis ensuite des grands domaines viticoles principalement de la ville de Lausanne, puis également du canton de Fribourg avec les Faverges, et gentiment s'est créé cette colonne vertébrale des vignerons en caveur à Lavaux qui font réellement partie de l'ADN du site.
Alors ce site en terrasse, hein, là pour le coup c'est vraiment le travail de l'homme, la pente est parfois très rude, il y a du 100% d'ailleurs à certains endroits, il y a de la falaise. Hein.
Exactement.
Alors là, il n'y a pas de vigne, évidemment, mais il y a du 45%. Mm-hmm. C'est assez.
Non, 100%
assez
des allées, c'est sûr. Ils sont attestés, donc il n'y a pas de problème. Que ce soit sur la périphérie du vignoble, quand on est sur des pentes comme à Villette ou sur certains pans à Saint-Saphorin, on est un peu moins en pente, mais en des allées, on est clairement à 100%. Et effectivement, c'est 10 000 terrasses, c'est 450 km de murs patrimoniaux. On parle assez volontiers de la forteresse de Lavaux. Si vous promenez sur la route du lac entre Cuy et Riva, par exemple, et que vous regardez sur le haut, vous voyez plus de murs que de vignes. Mmh. Et ça, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant de se dire, oui, c'est d'abord une construction avant d'être un espace naturel.
Bon, le travail des hommes et des femmes, le travail du temps, hein, avec les moines au départ, c'est le cas aussi d'ailleurs de certains vignobles du Chablais, hein, les mêmes d'ailleurs, je crois, hein, à Yvonne notamment. Ouais. Et il y a cette histoire-là, c'est l'histoire longue, et l'histoire plus récente, c'est cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment ça s'est fait déjà?
Ben, ça s'est fait par des idées, une envie de mieux faire reconnaître ce vignoble. Il faut savoir que la reconnaissance de Lavaux, elle date d'avant l'inscription. Hein. Le site est inscrit sur l'inventaire fédéral des paysages, monuments et monuments suisses, donc depuis 1977. Donc ça fait plus de 50 ans maintenant que le site est réellement inscrit sur un inventaire d'importance. Par contre, vous connaissez sûrement, il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été prises par des particuliers pour préserver le site.
Par des votations populaires.
Donc, il y a eu Sauver Lavaux qui s'est activé à faire trois initiatives, puis le dernier, le contre-projet en 2014, qui a amené justement à débloquer ce qu'on découvre ces derniers temps, le PAC, là, donc ce plan d'affectation cantonale qui est la dernière strate de protection à l'heure actuelle du site. Entre-temps, effectivement, il y a eu l'inscription du site sur le patrimoine, au patrimoine mondial. Là, c'est plutôt des hommes qui se sont mis autour de la table en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a un site extraordinaire, il mérite d'avoir une reconnaissance à l'international. Et donc, l'inscription du site sur le patrimoine mondial a été portée principalement par trois personnes, messieurs Bovy, Dresco et Valoton, qui se sont attachés à monter un dossier d'abord pour placer le site sur la liste indicative qui est portée consulté par l'Office de la Culture. Puis ensuite, l'Office de la Culture analyse les différentes propositions et a décidé de soutenir celle de Lavau. Un dossier de candidature a donc été monté et déposé en 2016 à l'UNESCO.
Ouais, on va pas aller dans le détail des choses, mais on voit que c'est la même chose maintenant avec tous les dossiers du patrimoine immatériel. Hein. Ça passe par le pays et c'est ensuite le pays qui propose aux Nations Unies et donc à cette agence l'UNESCO. Bon, il y a quelque chose, il y a une phrase qui me marque dans cette affaire de patrimoine mondial et de cette inscription à l'UNESCO, c'est on n'est pas protégé parce que c'est beau. C'est pas l'esthétique qui compte, parce que l'esthétique c'est subjectif, hein. C'est un truc qui peut être beau pour quelqu'un, peut pas l'être pour quelqu'un d'autre, pour une autre culture, etc. C'est pas ça. C'est quoi ?
C'est pas ça. Effectivement, c'est un des enjeux et une chance, c'est que Lavau est magnifique, mais l'esthétique, enfin l'inscription d'un site au patrimoine mondial s'appuie sur ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle de ce site. C'est donc des caractéristiques qui transcendent les profils sociodémographiques, les origines, les attentes et les lectures des personnes, et enfin, en fin de compte, il y a un certain nombre de critères qui ont été identifiés, de valeur, donc cette valeur universelle, et l'esthétique n'y figure pas. Ce qui y figure, par contre, effectivement, c'est l'élément structurant le vignoble. C'est un vignoble, l'un des plus grands de Suisse d'un seul tenant. Donc cette continuité du vignoble qui s'étend de la Lutrive, donc sur Lutrive, jusqu'à la Veveyse en tant que telle. Ensuite, il y a la partie patrimoine bâti, ces villages, ces hameaux, ces bourgs qui se sont accrochés dans le vignoble pour en garantir une exploitation sur séculaire. On a également tout ce qui est lié à la pratique de la vitiviniculture, c'est-à-dire cette approche, cette ingéniosité des vigneronnes et vignerons au travers des siècles pour s'approprier un versant très complexe, difficile, en pente, comme on le mentionnait précédemment. Et puis, évidemment, il y a encore l'adhésion populaire qui a été reconnue par l'UNESCO comme étant remarquable.